Bonsoir.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu et vu que c'est 19h, tout le monde sait que nous sommes en plein dans le Canu Info. Et on va commencer par le local avec un reportage sur les écoles occupées. Ensuite, on va rester dans le local en s'élargissant un petit peu puisqu'on changera de département. On ira à Montluel pour parler d'un festival qui a été annulé. Et enfin, on parlera d'une grande nouvelle, c'est la manifestation des patrons lyonnais qui est prévue le 3 décembre.
Super. Et du coup, ensuite, on enchaînera à demi entre le local et le national, puisqu'on parlera de Gérard Collomb très rapidement, une petite phrase magnifique de notre maire. Ensuite, on parlera de Didier Lombard, ex-PDG de France Télécom, et de sa retraite chapeau. Et ensuite, on parlera également des prud'hommes, une réforme pour le vote aux prud'hommes.
Et voilà, du coup, on va continuer dans la rubrique nationale, après en donnant une petite nouvelle par rapport au barrage de Sivens. On va avoir une rubrique sur les antinucléaires, des nouvelles du fameux prix Pinocchio qui a été décerné cette semaine. Alors, on aura plein de gens chouettes de qui parler. Et puis, on aura une info sur le Jura Libre et un reportage en immersion dans les chorales lyonnaises. Et on commence tout de suite par le reportage sur les écoles.
Reportage sur les écoles, donc, on est allé hier dans des écoles occupées, dans le premier arrondissement notamment. Alors, on va faire un petit retour sur l'action qui est menée. C'est une action qui est menée par un collectif qui s'appelle Jamais sans toi, notamment parce qu'il y a aujourd'hui 194 enfants scolarisés dans l'agglomération lyonnaise qui dorment dehors et plus de 100 jeunes qui dorment dehors aussi et qui ne sont pas scolarisés, qui dorment dehors avec leur famille. Alors, un mouvement a été lancé donc par ce collectif. Il y a aujourd'hui 5 écoles occupées, une dans le 7e arrondissement, c'est l'école Gilbert Dru, une autre dans le 1er arrondissement, l'école Michel Servet, et il y a également 3 écoles occupées à Vaux-en-Velin, l'école Gagarine, l'école Jean Villard et l'école Courcelles. À ceci s'ajoutent des manifestations qu'il y avait hier à l'école Pain-Levé dans le 3e arrondissement, l'école Victor Hugo et le collège de la Tourette dans le 1er arrondissement et le collège Barbus à Vaux-en-Velin. Donc on est allé notamment dans le 1er arrondissement pour prendre un peu du son, interviewer, faire des entretiens avec des gens qui avaient là-bas et voir pourquoi tout ce monde se mobilise. Donc petit reportage tout de suite.
Je suis trop petite pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour raconter la
dans l'école Michel Servet aujourd'hui dans le 1er arrondissement. Est-ce que tu
Elina peux... Elle est où? Pardon.
Ah. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ce soir?
Oui, aujourd'hui on est le jeudi 20 novembre et c'est la journée des droits de l'enfant. Un des droits de l'enfant, c'est d'avoir un toit. Donc simplement, on a simplement à Michel Servet, donc dans le 1er à Lyon, 21 enfants qui n'ont pas de logement fixe. Certains dorment à la rue, certains sont hébergés par des gens, certains sont en foyer très précaire. Il y a même une maman qui a un enfant de moins de 3 ans, donc en principe, plan froid, elle devrait être hébergée d'office, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, on a fait plusieurs actions, et la dernière, c'était ce soir, l'ultime avant la suite, c'est d'occuper l'école, le gymnase, avec des parents d'enfants, abrités ou pas.
D'accord.
Et les instits. Et...
Ok, et donc toi, tu es parent d'élève ici?
Moi, je suis parent d'élève de 2 enfants, oui.
Ok, et pour...
La dernière, la...
Mais cette action, vous avez monté un collectif, vous êtes organisé comment ?
On a un collectif dans cette école depuis longtemps parce qu'on a souvent eu des familles sans abri. On en a beaucoup plus cette année, donc 21. Et par ailleurs, on a monté un collectif général qui s'appelle Sans Toi, Famille Sans Toi.
Jamais Sans Toi.
Jamais Sans Toi, merci. Ouais. qui regroupe toutes les écoles du Grand Lyon.
D'accord.
On a été voir le préfet hier et visiblement, il ne donnera pas suite à notre demande d'héberger les... Alors, sur les quelques écoles qui ont réagi, donc il y en a 5 ou 6, on a répertorié 150 ou 160 élèves sans abri.
Oui, mais ça rend le dans le manche, les mauvais jours finiront égales. Quand tous les pauvres s'y mettront.
pas qu'on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La meuf à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur. De tous les jeunes à pendre bouge, valets de rois et d'empereurs. Oui, mais ça rentre dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y.
Beaucoup de familles dans cette école n'ont pas de toit, vivent dehors. Et c'est vrai que Michel Servet est une école très militante. Et du coup, on a décidé de façon festive de se réunir pour marquer le coup et dire qu'il y a des gens qui dorment dehors et que c'est bientôt l'hiver. Et c'est des mômes qui viennent régulièrement à l'école, qui sont très présents. Les parents aussi, ces enfants-là, on se connaît. Et voilà, on a envie de leur démontrer notre soutien et de faire avancer les choses.
D'accord. Et donc ce soir, il y a beaucoup de monde là dans la salle. On est dans le gymnase.
Ouais.
Et c'est plein de parents d'élèves, c'est ça ?
Il y a des parents d'élèves, il y a des parents élus, il y a beaucoup d'instituteurs. Il y avait presque toute l'équipe éducative, pédagogique. Voilà. Il y a aussi des gens du mouvement de soutien des sans-papiers.
Ouais.
Voilà, donc c'est. Et des enfants.
Il y a des gens qui vont dormir.
Il y a des tentes installées à l'intérieur. Donc ils vont peut-être tenir le piquet toute la nuit. Du coup, c'est important d'avoir des moments de réflexion, des moments de combat, mais je pense que c'est important aussi d'avoir des vrais moments chaleureux et tous ensemble.
Alors attention, attention. Et étant donné que nous sommes dans une école, j'ai décidé de faire. Dans une école, et oui, nous sommes dans un gymnase, mais néanmoins dans une école. Une chanson à visée pédagogique. Et à l'heure du mariage pour tous, j'ai décidé de revisiter à ma manière la chanson Fernande. J'ai vu Fred en slim, ça paraît con, mais le frisson. J'ai vu Fred en slim, un coup rude pour mes certitudes. Jusque-là, je n'avais Dieu que pour Sarah, Virginie et Fatia, que pour les Sophie, les Lucie, les Fleurs, mais vraiment pas pour les Bernard, les Franck, les Gérard et les Nicolas. J'en avais pas le goût. Et là, j'ai vu Fred en slim, j'ai le sang plombé, le frisson. J'ai vu Fred en slim, ses longues jambes effilées. J'ai vu Fred en slim, sa démarche de prince antique, comme dans un vieux film. J'ai senti une chaleur épique.
Alors, on est dans le collège La Tourette, ce soir. Je suis avec un prof d'histoire géo, c'est ça ?
C'est ça.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ce soir ici ?
Alors, ce soir, il y a une soirée un peu particulière dans cette salle polyvalente, qui est normalement une salle qui sert plutôt aux activités sportives et culturelles, et où, comme on peut l'entendre, il y a plusieurs dizaines de parents et d'enseignants qui se sont réunis, avec y compris leurs enfants, dans le cadre des mobilisations du réseau Jamais Sans Toi, et en solidarité avec notamment une famille du collège dont un de leurs enfants est scolarisé en 6e et qui se retrouve à la rue. Et donc, contrairement à ce que disent les autorités publiques, des enfants qui dorment dehors, ils pourraient en témoigner, que ça soit dans une voiture, que ça soit dans des logements précaires momentanés, que ça soit sous un abribus, ça existe, ça arrive, et le matin à 8h, on les a dans nos salles de cours. Et parce que cette situation, elle paraît inadmissible aux parents de ses camarades de classe, qu'elle paraît inadmissible à ses enseignants, et ça fait un petit moment qu'il y a un collectif parents-enseignants, collectif logement qui s'est créé sur le collège pour leur venir en aide, pour essayer de les aider parfois à bricoler un peu des solutions alternatives, mais qui ne sont pas des solutions durables, et qui aujourd'hui a décidé de participer à ce réseau Jamais Sans Toi, et qui a décidé ce soir de marquer le coup et de s'inscrire dans le cadre de ces mobilisations qui dénoncent l'hypocrisie au moment où on commémore le 25e anniversaire de la signature des droits de l'enfant, qui prétend des droits inaliénables, le droit au logement, à l'éducation, et que ces droits-là, ça serait bien que ce ne soit pas simplement gravé dans la pierre, mais que ce soit appliqué dans la réalité, dans la vie de tous les jours de nos élèves. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette soirée. C'est une soirée d'échange, de rencontre, de débat, puisqu'on a fait un débat tout à l'heure, puis d'un repas partagé et solidaire, puisque le prix libre de ce repas-là servira à aider cette famille. Et puis surtout de s'inscrire dans les mobilisations qui ont lieu dans plein d'autres écoles et collèges de Lyon. Parce qu'il y a aussi des enfants scolarisés qui sont SDF. Il y en a 194 qui ont été recensés aujourd'hui sur l'agglomération, d'enfants qui sont scolarisés dans des écoles ou des collèges et qui dorment dehors, qui sont SDF. Il y en a 100 qui sont SDF et qui sont pas scolarisés, dans le sens où leur situation est tellement précaire, leurs conditions de vie tellement dramatiques qu'ils peuvent même pas se soucier de la question de l'école. Et ça, c'est uniquement ceux qu'on connaît. Donc on estime qu'il y en a bien d'autres encore, quoi. Et on estime que aujourd'hui, quand on voit l'ampleur des richesses produites par notre société, quand on voit le creusement des inégalités, c'est d'autant plus injuste, et qu'on comprend que des parents sont choqués d'apprendre quand ils discutent avec leur enfant de ce qu'ils ont fait à l'école, que leur petit camarade il a passé sa nuit dans une voiture, que des enseignants de primaire aient la boule au ventre quand le matin ils reçoivent des enfants et dont la première tâche qu'ils ont à faire c'est de les passer à la douche parce qu'ils n'ont pas des endroits pour pouvoir se doucher. Comment pouvoir être exigeant en termes d'apprentissage scolaire face à des élèves qui ont dormi quelques heures dans le froid d'une voiture et qui, bien évidemment, la question des devoirs est complètement illusoire.
D'accord. Et tu sais comment aujourd'hui, là, ce soir, vous avez débattu et tout, comment les autorités publiques, la municipalité, le préfet, tout ça, se positionnent par rapport à ça ?
Alors oui, puisqu'on a eu la maman qui faisait partie de la délégation hier à la préfecture était présente ce soir et donc a fait un compte-rendu. On a été confronté à un véritable cynisme, c'est-à-dire un cynisme qui nie le fait que des enfants dorment dans la rue et qui disent que même au pire, si un enfant est dans une situation à dormir dans la rue, il suffit de le retirer à sa famille pour le placer et puis comme ça il dormira plus dans la rue. On voit encore une fois, ça nous rappelle un peu l'histoire des sans-papiers à Saint-Parnaire, avec humanité, avec cœur, comment nos autorités traitent ces problèmes. Et puis je crois qu'aujourd'hui les pouvoirs publics et notamment les pouvoirs municipaux et la mairie de Lyon, la mairie de Gérard-Collomb, elle joue le pourrissement sur cette question-là, alors que les lois, les leviers juridiques, ils existent et que le maire central, il a un véritable pouvoir de réquisition. Et qu'on le sait, il y a un certain nombre de bâtiments qui sont vides, même des bâtiments qui sont entretenus, gardés, chauffés. Ici, dans ce collège de la Tourette, on est né de la fusion de deux anciens collèges. Ces deux anciens collèges, ils sont en état. Il y a des logements de fonction qui étaient là pour les personnels administratifs. C'est toujours chauffé, il y a toujours des gardiens. Qu'est-ce qu'attend la mairie centrale pour prononcer un ordre de réquisition et alors que l'hiver approche, pour pouvoir y loger des familles d'enfants qui seront scolarisés dans ce collège ici? Donc il y a une véritable hypocrisie et il y a un véritable jeu de ping-pong entre les autorités étatiques et municipales qui est scandaleux. Et je crois que notre rôle, c'est de créer une mobilisation de terrain qui puisse instaurer un rapport de force qui force les autorités, même si ça leur plaît pas, mais à appliquer ces lois de réquisition et à prendre quelque part un peu leurs responsabilités et à sortir de leur froideur et de leur cynisme et d'accepter de pouvoir reloger ces familles.
Une nation qui tolère des quartiers de taudis, les égouts à ciel ouvert, les classes surpeuplées et qui ose châtier les jeunes délinquants me fait penser à cette vieille ivrognesse qui vomissait sur ses gosses à longueur de semaine et giflait le plus petit, par hasard, un dimanche, parce qu'il avait bavé sur son tablier.
Alors, on est ce soir au collège de la Tourette, dans le premier arrondissement, et je suis avec Madame le maire. Qu'est-ce que vous faites ce soir ici ?
Alors, je suis aux côtés des parents, des enseignants, d'un certain nombre d'associations aussi, et puis de familles qui sont à la rue.
Et du coup, comment la municipalité va-t-elle, celle du premier arrondissement en tout cas, va-t-elle manifester son désaccord? Quelle décision peut-elle prendre?
Alors déjà, quasiment l'ensemble des élus du premier arrondissement étaient dans les écoles concernées aujourd'hui. Donc c'était une manière de prendre position, d'être là. Ensuite, nous sommes déjà intervenus à la fois auprès de la préfecture, au niveau de la direction de l'action sociale, il y a déjà plusieurs semaines, pour anticiper l'arrivée du froid, et puis parce que le sans-abrisme, c'est pas seulement une réalité hivernale. Nous avons déjà interpellé le maire de Lyon et président du Grand Lyon, son adjointe à l'action sociale, pour signifier notre préoccupation, pour signifier notre volonté que notre ville et notre agglomération, demain notre métropole, prennent ses responsabilités, prennent la responsabilité, la compétence de l'hébergement. Certaines villes le font, enfin certaines métropoles, agglomérations le font, pour pouvoir mettre l'ensemble des acteurs, dont l'État, autour de la table et avoir un vrai plan d'hébergement. Pour l'instant, donc nous avons réitéré sa demande, que ce soit dans des rencontres, des rendez-vous que nous avons demandé, que ce soit en séance publique du conseil municipal au Grand Lyon, où nous avons fait des interventions via nos groupes politiques. Voilà, donc nous maintenons cette pression auprès des autorités publiques. Pour l'instant, une réponse négative nous est opposée, soi-disant faute de moyens. Or, nous, ce que nous constatons, et nous l'avons dit également en séance publique, et nous l'avons aussi rappelé aux autorités, c'est que les moyens existent, mais ils ne sont pas sollicités.
Et vous, à l'échelle de la municipalité, est-ce que vous avez la capacité, la volonté de réquisitionner, par exemple, du bâti, des bâtiments, des immeubles pour loger des familles?
Alors, le droit à la réquisition appartient au préfet. Dans la loi, c'est le préfet qui, quand il fait un constat de carence, et on peut estimer qu'à Lyon, il y a un constat de carence dans le place d'hébergement, puisque 2100 personnes à la rue chaque soir qui appellent le 115 qui restent sans réponse. Donc, quand un préfet constate un constat de carence, il peut prendre sur lui de réquisitionner des bâtiments. Ça, c'est le pouvoir du préfet. Il ne le fait pas. Le pouvoir d'un maire est de mettre à disposition des bâtiments qui lui appartiennent. Allez. Charge à l'État ensuite d'organiser l'hébergement dans ces bâtiments. En tant que mairie d'arrondissement, je ne suis propriétaire d'aucun bâtiment. Tous les bâtiments sont propriétés de la ville de Lyon. Donc nous avons dit aussi bien au maire de Lyon qu'au préfet qu'en tant qu'élu d'arrondissement, nous serions d'accord, par exemple, pour que les anciens bâtiments du collège Truffaut soient mis à disposition. Nous avons demandé au maire de Lyon qu'il fasse cette proposition au préfet. Il ne veut pas le faire. Nous avons demandé au préfet qu'il réquisitionne Truffaut. De pas le faire. Donc à un moment donné, n'étant pas propriétaire de bâtiment, je ne peux rien mettre à disposition.
Tu fais la tendance à ta clique, nous prendra d'elle une bétail. Attends enfin la République, de la justice et du travail. Oui, mais ça rentre dans le manche et nous les jours finiront. Égal.
Voilà, c'était le reportage sur les écoles du premier. On est aussi allé dans les écoles du 7e à Gilbert Dru, où il nous disait qu'il y avait besoin de beaucoup de soutien pour dormir et occuper l'école, et surtout aussi sur l'école du 3e, l'école Pain Levé. Voilà, il nous disait que l'année dernière, ils avaient fait aussi une occupation pendant 10 jours d'une école, et ça avait payé puisque toutes les familles avaient été relogées. Alors, allons les soutenir.
Et on va enchaîner sur un truc. On a appris ça tout à l'heure. En fait, il y a un truc qui était prévu hier, demain, pardon, le 22 novembre. Donc c'est bien demain. Donc c'était un événement sur comprendre le fascisme pour le combattre qui devait se dérouler à Montluel. Et en fait, ça a été annulé. Donc vraiment au dernier moment. Alors pourquoi? Parce que la maison familiale rurale dans laquelle devait se dérouler l'événement a décidé hier soir de ne plus louer la salle au collectif qui organisait l'événement, donc collectif Antifa de l'Ain. Et alors ils auraient pris cette décision après avoir vu l'affiche. Donc je sais pas, peut-être qu'ils pensaient que l'intitulé était comprendre l'antifascisme pour mieux le combattre. Je sais pas, ou alors c'est peut-être une basse manœuvre pour que le collectif Antifa ne puisse pas se retourner sur l'organisation et trouver une autre salle pour organiser l'événement. Et enfin, quoi qu'il en soit, ils ont été même jusqu'à être prêts à s'exposer à 15 000 euros d'amende pour maintenir l'annulation de la salle. Donc, a priori, il y aura eu des mots échangés, enfin, pas verbalement, mais textuellement, je crois.
Mais vulgaire, quand même.
Non, du genre, nous, on n'aime pas vos idées et on vous prêtera pas la salle à cause de ça. Donc, alors, il faut savoir qu'à Montluel, la liste majoritaire au Conseil Général, c'est divers droite, menée par Romain Daubier. J'ai pas. Voilà. Alors, hasard ou coïncidence je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, là, c'est vraiment. C'est un peu un traquenard, quoi. Voilà. Donc, c'est annulé. Voilà.
Alors, du coup, on vient juste de recevoir une information téléphonique hein, qui n'engage pas l'équipe du Canu Info, mais c'est juste un auditeur, on aime bien passer leur message. Il rappelle que Montluel, c'est pas du tout loin, c'est à 20 minutes en train ou un peu moins, et que du coup, le parvis de la mairie n'est pas forcément très surveillé, et que chacun peut aller y répandre de la matière fécale canine ou tout autre excrément ou chose qui embêterait monsieur le maire, et libre à chacun d'aller rencontrer ce gentil monsieur. Voilà, merci aux auditeurs.
Voilà, je vous incite à le faire. On enchaîne sur la guerre des classes. Et oui, dans la guerre des classes, le patronat aussi se mobilise. Et pourquoi ? Parce que le patronat se sent spolié, lousé, victime des salariés. Et donc face à cette oppression insoutenable, donc à l'appel du MEDEF et des organisations patronales, donc CGPME, alors, CGP, une Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises.
Amen. Wow.
Et de l'UPA, Union Professionnelle Artisanale. Donc, 3000 patrons lyonnais, 3000, se réuniront le 3 décembre prochain à la salle des 3000 à la Cité Internationale. Et oui, oui. Et donc, l'année dernière, ils avaient fait la même chose. Donc, cette année, ils remettent ça. Et voilà. Donc, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Eh bien, ils veulent dénoncer les incohérences des mesures du gouvernement. Et ils ont bien raison. Le PS, vous êtes bien gentil, mais il faudrait voir appliquer vos décisions, parce que le patronat se meurt. Alors, moi je dis, pourquoi pas aller tous à la salle 3000 le 3 décembre pour soutenir tous ces malheureux.
Eh oui, il y a encore cet appel de l'auditeur qui nous reparle de matière fécale canine, mais on va pas le relayer parce qu'on a d'autres choses à vous dire sur les patrons. Les patrons sont inquiets, mais heureusement le patron de tous les Lyonnais, monsieur Gérard Collomb, nous propose quelque chose pour les rassurer. Qu'est-ce qu'il propose Gérard dans Le Monde ? Il propose une période d'essai de 2 à 3 ans pour les CDI. Alors comme ça on est sûr que les patrons ne seront plus embarrassés par leurs employés et que le CDI, il voudra vraiment plus rien dire. Alors tout ça, c'est en lien avec une petite déclaration de notre patron de tous les patrons qui dirige aussi des trucs assez horribles en France, monsieur Manuel Valls, et qui du coup, qu'est-ce qu'il propose Manuel Valls ? Il propose d'agir sur les inégalités importantes entre les salariés très protégés en CDI et les précaires. Et tout ça, bien sûr, en nivelant par le bas. Donc voilà, les patrons, ils peuvent annuler leur manifestation, parce que je crois que le PS, il est plutôt à leur écoute finalement.
Et oui.
Et ah oui, c'est encore à moi. Parce que je dois parler d'un de ses autres patrons qui est encore lui spolié et qui est victime du peuple en colère de France, puisque Didier Lombard, l'ex-PDG de France Télécom, qui avait eu la grâce de qualifier les suicides des travailleurs de France Télécom, donc c'était il y a 2-3 ans, en effet de mode, il parlait d'effet de mode, et ben lui, il a été mis à la porte pour cette injure aux travailleurs, mais du coup, il a été mis à la porte avec une retraite chapeau de 374 000 euros. Alors là où c'est vraiment marrant, c'est que, donc ça c'est aussi un article du Monde, une petite brève du Monde, c'est que ça embête même les PDG, l'actuel PDG de France Télécom, parce que qu'est-ce que c'est ça ? C'est de la mauvaise propagande par le fait, quoi. Parce que du coup, il y a des patrons qui se disent, oh, ce serait quand même bien d'édulcorer un petit peu notre domination, et là, ça fait un peu gros bourrin, on peut insulter les ouvriers, les employés, et puis s'en mettre plein les fouilles. Alors du coup, ça risque d'énerver les gens. Alors il y a quand même des PDG plutôt sympas qui sont en colère contre Didier Lombard. Voilà.
Et on va passer maintenant à la réforme qui va priver le monde du travail du choix de ses représentants. Et alors comment est-ce qu'on peut avoir des représentants dans le monde du travail ? Eh bien c'est avec les prud'hommes. Et dans une indifférence assez générale, il y a quelques jours, le Sénat a donné son feu vert au projet de loi de François Rebsamen, que vous connaissez peut-être comme étant notre ministre du Travail.
Et le maire de Dijon.
Et le maire de Dijon, sûrement. Sur le mode de désignation des conseillers prud'homaux. Alors, il faut savoir que depuis 1979, ces derniers sont élus tous les 5 ans au suffrage universel direct. Mais désormais, ils seront désignés en fonction de la représentativité des syndicats de salariés et des organisations patronales. Donc, on se rappelle quand même qu'il n'y a plus beaucoup de syndiqués dans les boîtes. Pour légitimer cette réforme, le gouvernement argue de la faible participation aux élections. Il est vrai que celle-ci, en baisse constante, n'a été que de 25% lors de la dernière consultation en 2008. Mais on peut se demander de pourquoi est-ce qu'il n'y a que 25% des gens qui ont voté pour les prud'hommes en 2008. Le rôle de ces tribunaux est largement méconnu, sauf par ceux qui en découvrent l'importance lors d'un conflit du travail. Nombre de salariés ne savent ni à quoi ils servent, ni comment ils fonctionnent. Et pour cause, aucune campagne d'information n'a lieu lors de leur renouvellement qui s'effectue un peu en catimini, normalement sur le temps de travail, mais qui oblige parfois à demander une demi-journée de repos pour remplir son devoir de citoyen, entre gros guillemets. Donc il faut savoir que même pour pouvoir voter au prud'homme, donc pour avoir des représentants, pour pouvoir défendre notre droit du travail, eh ben, il faut demander une demi-journée de RTT. Donc malgré toutes les lacunes de cette juridiction clé du droit du travail, les conseils des prud'hommes existent toujours pour l'instant. Ils assurent vaille que vaille leur mission, avec l'autorité que leur donne l'onction du suffrage universel. On ne voit pas en quoi une désignation administrative viendrait mettre un peu plus de justice dans une institution qui ne gagnerait rien à s'enfoncer dans la gangue bureaucratique. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est que comme... le gouvernement décide d'enfoncer un coin dans une démocratie sociale qui est déjà un peu faiblarde, avec l'intention de ne pas s'arrêter en chemin. En effet, au nom du dépoussiérage et de l'accélération des procédures, il est question de favoriser la judiciarisation des prud'hommes en y faisant rentrer davantage de professionnels du droit, oubliant ainsi la spécificité du droit du travail. Ce qu'il faut savoir, que du coup, de loin en loin, ce qui risque de se passer, c'est qu'il n'y ait plus de représentants syndicaux ou autres aux prud'hommes et que du coup, les salariés ne soient plus représentés. C'est quelque chose qui du coup est passé étonnamment sans qu'on en entende parler sur les ondes et qu'on trouve important de rappeler ici pour savoir que pour les gens qui travaillent encore, il est important de lutter pour les droits du travail qui nous restent.
Merci. Du coup, rubrique écolo-vénère.
Eh oui, alors écolo-vénère, on va commencer par le barrage de Sivens, alors avec une nouvelle qui est pas si vénère que ça, mais qui pourrait être intéressante, bien qu'elle soit ambivalente. Parce qu'on a appris sur la chaîne parlementaire LCP, et oui, on regarde aussi la télé, châtiez-nous fidèles aux éditeurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Commission européenne, qui a été interpellée par une députée écolo européenne, elle ouvre une enquête sur le dossier du barrage de Sivens pour non-respect des normes environnementales européennes, à savoir la directive européenne sur l'eau et les règles sur le financement européen. Alors, là où c'est intéressant, au-delà de rentrer dans les coulisses du droit européen, on risque de se perdre et de se prendre les pieds, c'est qu'on apprend aussi qu'un quart du prix du barrage vient de l'UE, soit 2 millions d'euros. Et que, en fait, si l'UE retire ses financements, eh bien, le barrage, eh ben, il s'arrête et il s'écroule. Alors, tout ça, c'est que, pour l'instant, c'est juste une demande, donc il y a une enquête, en fait, et du coup, il pourrait y avoir une procédure d'infraction qui commencerait le 26 ou le 27 novembre, et ce serait, du coup, comme on le disait, un coup d'arrêt pour le barrage. Et là où c'est ambivalent, c'est que, du coup, ça pourrait servir le gouvernement, parce que ça lui ferait un peu une personne tierce, en fait l'Europe, qui dirait faut arrêter votre barrage, et du coup eux ils s'en sortiraient un petit peu facilement en disant ah, l'Europe nous interdit de faire le barrage, et comme c'était pas eux qui avaient décidé sous la pression des manifestations et sous la pression de leur propre répression d'arrêter ce grand projet inutile.
Et maintenant les écolos se vénèrent pour le nucléaire. Donc du coup samedi 15 novembre il y a eu à peu près 80 actions rond-point qui se sont déroulées partout en France pour dire non au rafistolage des vieilles centrales et pour exiger l'arrêt immédiat des réacteurs de plus de 30 ans. Et donc, dans le cadre de ces manifestations, le collet Stop Buget a occupé un rond-point à Saint-Priest, qui est à peu près à 30 km de la centrale nucléaire du Buget. Donc cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale Stop Rafistolage, qui est initiée par le réseau Sortir du Nucléaire.
D'accord. Et alors, pourquoi parler de vieilles centrales? Est-ce que ça ne serait pas une discrimination par rapport à ces centrales
Discrimination, je pense pas que ça soit le bon mot. En fait, à leur conception, les réacteurs nucléaires ont été conçus pour 30 ans, pour une durée de vie de 30 ans. Et actuellement, il y a la moitié des réacteurs qui ont atteint cet âge-là. Et EDF veut prolonger leur fonctionnement jusqu'à 50 ans, voire 60 ans. Et bien sûr, au mépris du risque des accidents. Hein. Et donc, en fait, tout ça, c'est parce que pour démanteler une seule centrale, il faut à peu près 25 ans. Enfin, actuellement, les centrales qu'on est en train de démanteler, ça fait déjà 25 ans qu'on est dessus, et on est encore loin de les avoir toutes démantelées, et on pourrait... On dit qu'à peu près il faudrait 50 ans. Et ça demande... Ah non, mais c'est énorme! Vous vous rendez pas compte, ça dépasse l'entendement. Et donc, ça coûte aussi très 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 cher. Et en plus, je vous parle pas des déchets nucléaires, on sait même pas où les mettre. Donc du coup, tout ça, EDF préfère rallonger le temps de vie sans en prendre en compte les conséquences du coup.
Oui, moi c'est Marcelino, j'ai 8 ans, je vous appelle parce que cette histoire, c'est un peu mon avenir, parce que je suis encore jeune et je vais connaître les 50 ans. Et du coup, je voulais savoir, face au vieillissement des centrales nucléaires, qu'est-ce qui est mis en place?
Ah, c'est bien que la jeunesse s'intéresse à ça et des questions si pertinentes. Alors, je vais te répondre. En fait, EDF a pour projet de gaspiller des centaines de millions d'euros. Non mais rigolez pas, c'est très important que tout le monde s'y intéresse. Dans des travaux du coup de rafistolage assez coûteux, le problème en fait c'est juste que ça fait reculer l'échéance et ça stoppe pas le processus de vieillissement des centrales. Et puis bien sûr des sommes invraisemblables sont données pour le nucléaire et très peu est consacré pour les énergies renouvelables, les économies d'énergie, voilà.
Et l'État dans tout ça?
L'État dans tout ça? Ah bah toujours fidèle à lui-même, hein. Face aux problèmes que pose le nucléaire, l'État n'oppose absolument aucune résistance. En ce moment, il y a la loi de transition énergétique pour une croissance verte, qui d'ailleurs doit bientôt être examinée par le Sénat, et qui met en avant les énergies renouvelables, les réductions de consommation d'énergie, et blablabla, et blablabla. Mais à aucun moment, il aborde la question du fonctionnement des centrales, la limitation de durée du fonctionnement des centrales. Ça me... ni un calendrier de fermeture. Donc du coup, à aucun moment, ils abordent du coup les vieilles centrales. Et d'ailleurs, pour finir du coup sur ce sujet, j'ai trouvé dans un article du Monde un petit message laissé par un lecteur que je souhaite absolument partager avec vous. Alors, ouvrez les guillemets. Ne dit-on pas, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes ? Ça donne faim. Encore une fois, protégeons ces centrales, créons des emplois. Il faut investir et sécuriser encore plus. Elles sont là et il faut vivre avec. La meilleure solution pour se débarrasser des déchets, on va peut-être savoir, qui découle de ce principe de production électrique, serait de les expulser via de grosses fusées dans l'univers lointain. Et fini la pollution terrestre. Voilà, bon, je vous laisse réfléchir sur ce magnifique message.
Pas bête. Juste pour rappeler quand même qu'il y a un projet d'enfouissement qui est plus qu'un projet. Hein. A priori, ça va se faire dans 5 ans, entre la Haute-Marne et la Meuse. Et,
c'est en France.
La Haute-Marne,
hein.
Ouais, en France, dans le nord-est de la France, à Bure, exactement, à Bure. Voilà.
Et moi, toutes ces histoires de vieilles centrales, en fait, ça me fait penser quand même vachement au même mécanisme avec les retraites. Parce qu'au début, on dit, tu travailles jusqu'à 50 ans, puis après, c'est 60, 70, 80. Et les centrales, c'est pareil, en fait.
Ouais. Les vieilles centrales, d'où le mot vieille.
30 ans, 40, 50, 60.
Tu veux dire qu'il faut recycler les vieux après?
Non, il faut qu'elles travaillent moins.
Ou les enfouir à Bure.
Alors, je suis un peu déçu de couper ce débat sur la conscientisation des centrales nucléaires, mais parce que je suis pas bien sûr de le saisir. J'en profite pour une information qui m'a l'air aussi importante par rapport à l'écologie et à ce que savent faire nos magnifiques entrepreneurs, qui sont les génies d'aujourd'hui, de demain et peut-être de demain dans l'apocalypse. Avec quelle belle nouvelle, la remise du prix Pinocchio cette semaine. Qu'est-ce que c'est que le prix Pinocchio? C'est en fait 3 prix décernés à nos entrepreneurs qui sont trop souvent méconnus. Alors, le premier prix, c'est le prix Une pour tous, tout pour moi. Et cette année, qui c'est qui l'a reçu? C'est l'entreprise Shell. Et pourquoi elle l'a reçu? Parce que c'est l'entreprise qui a mené la politique la plus agressive en termes d'appropriation, de surexploitation ou de destruction des ressources naturelles, et ce, à travers le monde entier, grâce à la recherche du gaz de schiste. Merci Shell.
Il y a un autre prix décerné dans le prix Pinocchio. C'est le prix Plus Vert que Vert. Alors celui-là, moi, je le trouve quand même vachement chouette parce que c'est une entreprise française qui l'a, donc faut quand même savoir faire des cocoricos. C'est GDF Suez. Donc le prix Plus Vert que Vert, c'est quoi? C'est les entreprises qui ont mené la campagne de communication la plus abusive et trompeuse au regard de leurs activités réelles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait GDF Suez? Alors là, c'est super chouette parce qu'ils ont créé des obligations vertes. Donc c'était demander à des gens d'investir dans l'écologie pour qu'ils financent des barrages, des projets d'énergie renouvelable. Et leur plus beau projet, par exemple, qu'on doit citer quand même, c'est le barrage électrique de Giro en Amazonie, qui est un grand désastre environnemental et humain. Et sachant qu'au-delà d'investir de l'argent qui est censé être pour l'écologie dans des trucs horribles, et bien à côté de ça, maintenant qu'ils se sont lavé les mains, en tout cas médiatiquement, ils continuent à développer les énergies fossiles. Et enfin, nous avons la troisième partie du prix, main sale, poche pleine pour Samsung. Car qu'est-ce qui s'est passé avec Samsung? Elle a été élue l'entreprise ayant mené la politique la plus opaque au niveau financier et du lobbying. Et pourquoi? Parce que Samsung, alors ça a l'air complètement fou, enfin moi ça m'a vraiment surpris, ils font travailler des enfants. Bon, là on se dit c'est normal, c'est la compétitivité internationale, on est habitué. Mais le tout en faisant valider dans des pays comme la Suède leurs produits comme socialement responsables. Et moi je trouve ça quand même assez chouette qu'ils osent aller jusque là. Et je remercie le prix Pinocchio de mettre en avant les belles entreprises qui vont améliorer le monde de demain.
Oui, merci. On va enchaîner sur un truc qui a absolument rien à voir. On va vous donner des news. On vous en avait parlé il y a à peu près un mois par rapport au procès que le Juralib avait suite à une plainte d'hortefeux. Donc ce procès devait avoir lieu le 14 novembre dernier à Paris, et en fait il a été reporté. Donc il aura lieu le 5 mai 2015. Il a été reporté pour des soucis de santé de l'avocate. Donc après, on n'en sait pas plus que ça. Alors, juste pour rappel, ce procès, il fait suite à une plainte donc d'hortefeux à l'époque, en 2010, qui était ministre de l'Intérieur en 2010. Et c'était suite à des événements qui s'étaient passés en juillet, lorsque plus de 300 flics avaient complètement isolé le quartier de la Villeneuve à Grenoble suite à la mort d'un braqueur abattu par la police lors d'une course poursuite. Donc ils avaient coupé toutes les voies de circulation, etc. Donc il y a eu plusieurs articles produits par Indie Media Grenoble et entre autres. Et donc à cette époque-là, le Hortefeux avait porté plainte contre Indie Media Grenoble et le Juralib. Mais seul le Juralib a encore actuellement le procès. Mais pour le Juralib, en fait, c'est pas juste une histoire de procès, car depuis 2010, ils subissent pas mal de pressions policières. Donc par exemple, là, la dernière pression qu'ils ont subie, c'était le 24 septembre dernier, sous prétexte de rechercher les auteurs d'un texte anti-nucléaire, donc je vous invite à y lire évidemment, donc qui est toujours en ligne sur le Juralib, qui s'appelle « Sabotage Bessine, coucou c'est nous », donc qui est paru le 5 avril 2014. Et donc suite à cet article, il y a la section de recherche de la gendarmerie de Limoges qui a saisi trois petits ordinateurs. Petit et innocent ordinateur. Et alors du coup, ça c'est des pratiques qu'ils avaient fait aussi en 2011. Pareil sur le Juralib, pour retrouver des personnes responsables de slogans marqués sur le mur du consulat d'Italie à Bordeaux. Donc même procédure, perquisition, saisie d'ordinateur pour rechercher les IP, etc. Donc voilà, et pour terminer là-dessus, bah du coup on vous donne un nouveau rendez-vous. On vous avait donné un rendez-vous il y a un mois, le 14 novembre. Ben on vous en donne un nouveau le 5 mai, toujours pour soutenir le Juralib. Et cette fois en espérant que l'avocate soit sous l'attaque. Enfin, j'espère qu'il ne va pas arriver de trop gros ennuis. Voilà.
Qu'est-ce que c'est que ça? Serait-ce le slogan de la... enfin, le jingle de la rubrique agenda?
Non, c'est une canette qui s'ouvre.
Il y a un moment encore à elle.
Et oui, mais parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'agenda, on voulait vous parler d'autre chose que les choses qui ont lieu de manière spontanée et vous présenter un petit peu les choses qui se font de manière régulière dans Lyon pour que vous vous proposez de vous impliquer un petit peu dans les choses dans le long terme. Et donc, on vous présente une sorte d'agenda permanent avec un reportage assez fou dans un milieu complètement flippant.
Faut cambia de regime.
Notre reporter est encore parti pour vous auditeurs s'immerger dans les activités militantes de Lyon. Il nous a rapporté ces sons que vous entendez en tremblant. Quand nous les avons reçus, nous avons eu peur pour sa personne. Quel risque avait-il pris? Avait-il rejoint une secte franco-provençale? Avait-il intégré le Bigre, le mouvement des banlieusards islamo-gauchistes et ruraux? On a continué à écouter la bande-son, et franchement, ça nous a pas rassurés.
Mais ouais, pour la position, c'est pas facile, parce qu'en fonction du nombre qu'on est, soit on se met tous les uns à côté des autres, plus ou moins en cercle, enfin en demi-cercle, comme ça. À ce moment-là, on peut être très loin les uns des autres. Et quand on se met l'un devant l'autre, c'est pas super évident.
Demi-cercle comme ça, soit plus patate. Quoi.
Ouais, ouais, on va peut-être être plus en groupe et puis il y a des étages, il y en a qui sont un peu plus bas.
On s'est demandé s'il n'avait pas rejoint un groupe secret de formation paramilitaire d'inspiration véganiste, antispéciste, visant l'abolition des différences entre hommes et légumes. Est-ce que ce groupe qu'il aurait intégré ne visait pas la destruction du vieux monde à travers des formations de combat s'aspirant de nos amis les plantes? On voulait enlever tout équivoque, se sauter ce doute horrible qui nous faisait trembler. Alors on l'a appelé au téléphone. Et voilà ce qu'on a entendu.
Ouais, Canu Info, non, désolé, je peux pas vous répondre. Là, faut que je vous laisse, hein. Putain, comment on éteint ce feu? Ah, fais chier, j'arrive pas à l'éteindre, j'ai qu'à le laisser, voilà.
Alors moi, plus de panique au son des chants, je me suis évanoui au sol en pensant qu'il avait intégré une chorale latine royaliste. Mais heureusement, mon inconscient formaté à quelques brochures anarchistes, aux manifs et aux cours d'italien reçus en CM2 me sortit de ma torpeur.
Réveille-toi, tout va bien, il doit être une chorale militante.
Et là oui, tout s'est éclairé. Et plein de vie, je me flagellais 34 fois pour avoir bêtement associé chorale aux églises et à la droite. Les amis, bienvenue dans les chorales militantes de Lyon. Bienvenue aux mauvaises pentes et bienvenue à la chorale des canulars.
Quand on arrive à ouvrir la porte.
C'est marrant, c'est 21, montée Saint-Sébastien. Est en bas des pentes.
Et du coup, si on est nouvelle arrivante, par exemple, on vient n'importe quel dimanche.
On va dire que dans la règle c'est plutôt janvier ou septembre, mais que comme la règle fonctionne pas très bien, vous pouvez plus rester de venir.
Voilà, c'est ça. Et
généralement ça marche.
Plus il y a de monde, mieux c'est.
Et on aime bien les hommes.
Et après, sinon, pour venir vous écouter, en dehors de ces draps.
Samedi prochain. Par exemple, samedi 22 à 15h, le salon des éditions libertaires.
Des associations, tout en fin prochain.
Et pour les autres dates, après on...
16 décembre, aux archives départementales, pour l'exposition sur l'immigration italienne.
Et par toi au marché de la Croix-Rousse.
Oui, comme dimanche dernier.
Comme hier.
Et par toi dans les mains.
C'est quoi les particularités de cette chorale?
Bah,
viens un dimanche, on t'explique.
Malheureusement, à ce moment précis où toutes les informations allaient être données, l'infidèle dictaphone de notre fidèle reporter tomba en rade. C'est en scrutant sa conscience qu'on a pu retrouver l'essence des informations. C'est bien moins sympa que les propos des amis de la chorale des mauvaises pentes, mais c'est déjà ça. Plongeons dans sa conscience.
Oui, bon. C'est une chorale autogérée, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chef. C'est un fonctionnement anarchiste. Mais pas de chef dans une chorale, ça veut dire pas de chef de cœur. Ça veut dire non seulement qu'il n'y a pas de chef charismatique, mais non, c'est pas ça. Oui, ça veut dire qu'en fait, eux, ils chantent sans chef, en fait, qui donne la mesure. Il n'y a pas le Gérard Jugnot, quoi. Quoi d'autre coincé ici, en moi conscience? Ah oui. Ils chantent dans tout plein de langues, ils chantent des chants militants, et puis ils se produisent dans des moments militants aussi.
Sa conscience, et puis c'est bien moins sympa que les propos des copains, mais c'est déjà ça. Malheureusement, notre reporter, en se rendant compte de l'erreur d'enregistrement qu'il a commise, il a vécu une mauvaise aventure.
Allô Canu, ouais, c'est votre reporter intrépide. J'ai trop la honte, je viens de me rendre compte que mon dictaphone il a bugué sur la fin. J'ose même pas leur dire au revoir en fait aux gens de la chorale. Je vais faire semblant de lire un livre parce que ouais, il y a plein de livres chouettes au Cédraf, hein, vous connaissez quoi. Ah tiens, un exemplaire d'autogestion, hier, aujourd'hui et demain. Ah, c'est un gros pavé ça. Je pense que je vais pouvoir le lire jusqu'à qu'il part tous en me cachant dans un coin. Oh, il est lourd. Ah, c'est fou, il y a comme un passage secret derrière le bouquin. Ça fait un trou. Ouais, y'a quoi au fond? Oh là là, merde, ça glisse. Oh, merde, Canu, t'es où, reporter téméraire? Je sais pas, aide-moi, Canu, est-ce que tu peux me localiser?
Attends, fidèle reporter, si j'arrive à démarrer cette machine GPS de l'ère steampunk, je devrais pouvoir te réparer. Allez. Je capte quelque chose, tu dois être là. C'est bon, je t'ai localisé, tu es là.
Mais c'est où, là? Merde, mais ça m'aide pas, Canu Info, et puis c'est flippant. Il me faut plus d'infos, où je suis, merde.
Ah, mais calme-toi, je fais ce que je peux. Bon, je relance la machine.
Ah, super, Canu. Maintenant, je suis en Espagne, dans les Asturies, en 62. C'est ça, c'est l'appel à la grève. Oh, je vais faire comment pour rentrer chez moi? En plus, je panne rien, moi, l'espagnol.
Attends, je te localise.
Vous êtes arrivé au 91 rue Montesquieu.
Ah ça y est, je crois que je comprends. Ça tombe bien. Attends, ouais, je crois que c'est ça. Je dois être à l'atelier des canulars rue Montesquieu. Ah, je vois des gens qui chantent. Je vais aller leur demander ce qui se passe.
Excusez-moi, je suis un peu perdu là. Je suis bien une chorale. C'est quoi le nom de cette chorale, s'il vous plaît?
C'est les canulars.
Ça a été décidé comme ça.
On est à la
chute.
C'est parce qu'on rappelle dans l'atelier des canulars.
Tous les lundis soirs à 19h30.
On mange ensemble, on boit un coup, des fois de l'eau,
des fois.
Et puis voilà, puis on chante. On a un répertoire surtout français, italien, espagnol, de chants révolutionnaires. Voilà, je sais pas. Pas quelques mois qui.
Féministe.
Oui, féministe.
Anti-militariste, anti-capitaliste, anti-étatique, anti-religion.
Mais pour tout aussi.
Surtout pour. Voilà, puis sinon, on essaye de chanter pour les événements, là, comme on soutient à Pinard Sélec, le Salon Libertaire, enfin, des trucs comme ça.
Et on a chanté aussi pour le chant pour tous, ça aussi.
Ouais.
Et du coup, si on vient la première fois, faut faire quelque chose. Faut venir un jour particulier, à une heure particulière.
Non, il y a une audition, évidemment. Donc,
il n'y a pas d'audition.
Les gens se joignent petit à petit.
Il faut chanter les canuts en allemand et après c'est bon.
C'est marqué, la première chanson.
C'est le critère.
Et du coup, c'est une chorale qui est autogérée, c'est ça, son fonctionnement?
Ah, complètement.
Bon. Bien, où est l'autogestion, mais voilà,
on essaye, on va dire. Bah, que les gens qui veulent amener des chansons, ils en amènent, qu'il n'y a pas de chef de...
Voilà, on a une chorale de...
C'est pas vrai qu'on a, que c'est jamais...
On n'a pas de chanteurs, pas de chanteurs, mais de militants.
On a une chorale de chanteurs, qui ne correspond pas à des critères classiques. Les militants ont chanté, les militants ont chanté qui chantent. Et qui essayent de dépoussiérer un petit peu les vieux répertoires du 19e siècle, la chanson révolutionnaire.
C'est de l'art contemporain, on dépoussière les mélodies.
Avec quelques compositions.
On a même des compos locales.
Du coup, le prochain événement pour vous voir.
Ben, c'est le 22, samedi 22 à
Salon des éditions Libertaires, à la maison de l'association 28 rue d'Enfer Rosson à Lyon dans le 4e. À 15h.
On chante à 15h, vous devez venir un petit peu plus tôt si vous voulez nous entendre. Parce qu'à 15h on sera dans la mouvance.
Ouais, mais bon, tout le monde peut venir. Ouais.
C'est ouvert.
On va partager les idées.
Normalement, on sera avec d'autres chorales. Il y a le chorale de Lyon, les mauvaises pentes, et après peut-être les gens de Saint-Étienne, peut-être quelques gens de Grenoble qui viennent.
Et puis l'été, il y a toutes les chorales de France et de certaines chorales d'Italie et d'Angleterre qui se retrouvent dans le Limousin pour une semaine de chansons, de rencontres, de chansons et grosses fêtes. Voilà. C'est que des chorales militantes. Ouais. Mais on est obligé de limiter le nombre parce qu'on est à 200 là. Il y en a plein d'autres qui veulent venir. Enfin, une semaine. Et là, c'est vraiment le fonctionnement vraiment autogéré.
C'est chant non-stop. Ouais. C'est aussi le renouvellement du répertoire parce que c'est l'occasion d'avoir des chants un peu qui viennent de tous les coins de France et puis de l'étranger aussi. Quoi. Du coup, c'est comme ça qu'on renouvelle notre répertoire.
On chante le principal, donc qui sont sympas, enfin, qui sont les plus connus, qu'en général, les gens apprécient quand on fait des soirées de soutien.
Et voilà, tout est bien qui finit bien pour notre fidèle reporter. Il a quelques séquelles depuis ce voyage. Il marche guiré dans la rue en fredonnant des airs révolutionnaires. Bon, c'est plutôt chouette comme séquelle. Par contre, il en a oublié de nous rapporter le titre des chansons qu'on a entendues. Mais c'est déjà bien qu'il les a enregistrées. Et puis chacune des chansons, elle correspond à une répétition de la chorale interviewée au même moment. Alors vous aurez qu'à aller leur demander si vous voulez vraiment savoir. Sinon, vous aurez compris que ces chorales sont avant tout militantes. Et qu'on y chante dans les rires et la joie. Il y a même des rencontres internationales tous les étés. Et si toi aussi, ami auditeur, tu as suivi le cheminement sensible de notre fidèle reporter, que tu es passé de l'indifférence face aux chorales à une pulsion incontrôlable te poussant à fredonner sans cesse, si toi aussi tu as les cordes vocales qui vibrent sans que tu ne puisses les contrôler, si ces vibrations ne sont pas liées à une stupide logorée, mais au désir de faire vivre les chants de lutte, tu sais où te rendre. Soit aux mauvaises pentes, les dimanches soirs à partir de 20h, au Cédra 27 Montée Saint-Sébastien, en bas des pentes de la Croix-Rousse, soit à la chorale des Canulars, le lundi soir à partir de 19h30, à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, à Saxe-Gambetta. En attendant que notre fidèle reporter se remette de ses émotions et qu'il reparte à l'aventure, on vous laisse avec ce petit message à la police de la part de la chorale des Canulars.
La vie t'a rêvé pour toi, cogner des gens pour faire tes heures. T'aurais mieux fait rester chômeur. Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Je ne me fais guère d'illusions sur la portée de cette chanson. Je sais que tu vas pas hésiter dans deux minutes à me castagner. Je sais que tu vas pas hésiter. T'es bien pressé par la dîner, mais au moins j'aurais essayé avant les bosses de te causer. Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien vous paye? payent pour faire ça.
Et après ce sublime reportage sur les chorales, on passe à l'agenda pour pas que vous ennuyiez pendant que vous n'écoutez pas le Canu Info.
Bien sûr, alors ce soir n'hésitez pas à aller à l'atelier des canulars rue Montesquieu où il y aura un petit repas, enfin un grand repas et de la musique également pour soutenir le festival Play is Cool. Donc Play is Cool, c'est un festival qui a eu déjà lieu l'année dernière pour fabriquer des sextoys et parler de sexualité et des relations entre les personnes.
Le tout en do it yourself.
Voilà, vos plus belles tenues seront de rigueur.
Et ce soir toujours à 20h, donc c'est tout de suite, vous pourrez aller voir Dialek en concert organisé par la CGA. Ça se passe à la Plume Noire, au 8 rue Diderot, à Lyon.
Voilà, et demain à 15h, alors rien à voir, mais il y a un rassemblement du coup Place de la République. Du coup, le but, c'est de parler de la colonisation et de l'épuration ethnique à Jérusalem. Et du coup, il y aura le père de Mohamed Abou Daï. Je ne sais pas exactement comment ça se dit. Du coup, c'est un jeune palestinien de 16 ans qui a été assassiné et brûlé vif le 2 juillet 2014 par 3 Israéliens d'extrême droite. Voilà, du coup, vous pouvez soutenir ce mouvement. Il y a aussi sur Facebook le collectif 69 Palestine. Vous pouvez regarder sur Internet.
Et demain à 18h, vous aurez le plaisir d'avoir un concert de rap sauvage open mic. Pour savoir où ça se passe, il faut appeler le 0800 92 35 00 33 et taper le 159 753 pour connaître le lieu.
Attends,
ils sont
répète,
attendus.
Répète, doucement.
Ne manquez pas. Doucement. Le 08 92 35 00 33 et ensuite vous tapez le 159 753 pour connaître le lieu. Sont attendus toutes celles et ceux qui ont besoin de se trouver dans ces temps où tout semble vouloir nous diviser. Toutes celles et ceux qui aspirent à l'inattendu, à vivre l'imprévisible quand tout devrait être sous contrôle.
Oui.
Tous ceux et celles qui détestent la police parce qu'elle est toujours en travers de notre chemin.